une maison là. Il a créé un bunker sous terre, 250 millions de dollars, c'est un truc de luxe parce que c'est son hubris et ses lubies de survivaliste là.
Les frasques des milliardaires de la tech.
Après, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête
entre celui qui veut aller vivre sur Mars,
celui qui veut aller se mettre sous terre,
sur une terre en mode survivaliste.
Ah puis Zuckerberg,
il faudrait qu'on sache plus.
Il continue parce que ça y est, lui il veut créer une IA consciente capable de réfléchir comme un humain. Enfin, il les enchaîne quand même.
D'ailleurs, tu sais que notre invité, il a travaillé chez Facebook, donc on va pouvoir lui parler de tout ça directement.
Et puis il était responsable de l'éthique des intelligences artificielles.
On va avoir quelques petites questions à lui poser, je crois.
Est-ce qu'il pourra tout nous dire?
On verra.
Ils croyaient que nous ferions partie de leur évolution, mais ils nous ont créés capables d'évoluer seuls.
French Tech, esprit critique pour tech éthique.
Bienvenue dans Trench Tech, le podcast qui aiguise votre esprit critique sur les impacts de la tech dans notre société. Thibault Lemann pour vous servir et toujours accompagné des excellents Cyril Chaudois et Mick Lévis.
Salut.
Yes. L'IA, nous en parlons beaucoup. Dans Trench Tech aussi, même si nous préférons dire les IA. Il faut dire que ce sujet est au cœur de nombreux enjeux sociétaux,
géopolitiques,
politiques,
économiques,
environnementaux,
philosophiques.
Et il ne faut pas oublier l'éthique, bien sûr. Et les big tech, nous en parlons aussi beaucoup dans Trench Tech.
Ah oui, évidemment, leur hégémonie, entre autres.
C'est vrai, mais il y a aussi les nombreux services qu'ils couvrent.
Mais grave, et leur prouesse technologique.
Après, on ne va pas se mentir, il y a aussi les risques auxquels ils nous exposent. L'influence, la dépendance, les fake news, les deepfakes et j'en passe. À l'heure où nous comparons l'IA à l'intelligence humaine, à l'heure où nous voulons faire des IA qui nous ressemblent de plus en plus, à l'heure où nous voulons que ces IA progressent toutes seules, un peu à l'image de l'extrait de Ghost in the Shell que nous avons entendu en introduction, il est temps de se poser et de prendre du recul. C'est là encore une grande première dans Trench Tech 2024. Quand on vous dit que cette saison allait être au top, nous recevons cette fois-ci un philosophe, spécialiste de l'éthique et qui a travaillé chez une big tech, avec qui nous allons lui poser mais plein de questions.
Oh, moi j'en ai plein en effet.
Hop. Attends, me dis pas qu'on reçoit Hubert Étienne.
Eh bah si, Hubert Étienne qui est docteur en philosophie, expert en éthique de l'IA, enseignant à Sciences Po, auteur notamment du livre Le sens de l'État, comprendre la crise politique par la modalité fiscale aux éditions Belles Lettres. Et il a également travaillé sur l'éthique de l'IA pendant 4 ans chez Meta, la grande maison Facebook. Et aujourd'hui, il est aussi PDG de la discrète entreprise de conseil au gouvernement Quintessence AI. Avec lui, nous allons voir ce qui l'a poussé à rejoindre un géant et comment ça se passe l'éthique chez eux. Nous allons bien entendu parler éthique dans l'économie numérique et se questionner pour savoir si c'est un mythe ou une réalité. Et enfin, nous allons nous interroger pourquoi il est nécessaire que les philosophes intègrent le monde de l'entreprise. Dans cet épisode également, nous allons avoir deux chroniques que vous allez juste adorer. La tech entre les lignes de Louis de Diesbach qui va revenir sur l'allégorie de la caverne. Et la philotech où Emmanuel nous parlera du paradoxe du bateau de Thésée. Bonjour Hubert.
Bonjour.
Salut Hubert.
Salut.
Comme la tradition l'oblige, est-ce qu'on peut se tutoyer ?
Allons-y.
C'est parti pour le grand entretien.
Trench Tech, esprit critique pour tech éthique.
Alors Hubert, comme nous l'avons dit en introduction, c'est pas souvent, et c'est même peut-être la première fois que nous recevons dans Trench Tech quelqu'un qui est passé par une big tech, et plus encore, qui a travaillé sur les sujets d'éthique chez ces big tech. Alors, avant de comprendre pourquoi tu y es allé, peux-tu nous dire ce qui t'anime dans la philosophie en général, et l'éthique en particulier ?
Oula, on part directement sur une vaste question.
Direct.
Ouais, fais gaffe, t'as pas plus de 30 secondes par question. Il y a un quota chez nous comme ça. Grande question, petite réponse. Non, vas-y.
Bon, je vais essayer de pas faire le philosophe alors et de vous donner des réponses rapides, mais je pense que c'est, pour répondre rapidement, je pense que c'est difficilement un choix, c'est plus quelque chose qui s'impose. Il y a des gens qui ont peut-être une appétence à chercher plus de sens dans ce qu'ils font, et donc voilà, c'est moins un choix, je dirais, qu'une malédiction parfois, de se dire, mince, mais pourquoi est-ce que je fais ça ? Il faudrait peut-être que je pose plus la question, et donc c'est peut-être ça qui dirige certaines personnes vers la philosophie plus que d'autres. Après, dans mon cas, ce qui m'a ramené plus vers les questions d'éthique, pour moi, la question d'éthique, elle est juste fondamentale, c'est la question d'où découlent toutes les autres questions, c'est-à-dire comment est-ce que je dois me comporter, comment est-ce que je dois agir, pourquoi ? Comment est-ce que je définis ça? J'ai du mal à concevoir qu'on puisse vivre sans ça. J'aimerais bien vivre sans ça. Mais donc voilà, plutôt le type de question qui m'a poussé vers la philosophie, vers l'éthique, plus particulièrement. Et puis, une fois qu'on commence à avoir des réponses, je dirais, sur ces questions-là, on essaie aussi de le mettre en mouvement pour, dans un schéma plus vaste et peut-être une perspective plus activiste. Donc, c'est ce genre de choses qui m'a dirigé vers l'éthique de l'IA, en particulier vers les big tech, comme vous les appelez.
Alors, moi, ce que j'aime, d'abord, j'aimerais juste qu'on note tous qu'on a la chance de côtoyer pas mal de philosophes depuis le début de Trench Tech. Et il n'y en a pas un seul qui ne te dit pas à un moment donné, bon, je vais essayer de pas faire mon philosophe. Donc, ils sont tous philosophes. Je vais essayer de pas faire mon philosophe. Ça en dit long quand même sur l'opinion publique vis-à-vis des philosophes. Et le deuxième point que je voulais ajouter, c'est, bon, donc maintenant, on a bien compris que tu l'avais plutôt subi que choisi d'une certaine manière. Les faits de la philosophie sont penchés sur ton berceau et on dit, toi, il faudra que tu réfléchisses pour les autres. Et donc, la deuxième question qui est beaucoup plus serrée, beaucoup plus anglaise, mais pas si simple que ça à répondre. Pourquoi t'allais faire ça chez une big tech alors? Pourquoi chez un géant de la tech? Et nommons-le, on a le droit.
Oui.
T'étais chez Meta, c'est ça, la maison mère de Facebook.
Je suis rentré en 2019, donc ça s'appelait encore Facebook. Et je pense que la question, honnêtement, elle n'est pas tellement pourquoi y aller, mais plutôt comment, parce qu'en fait, je connais quasiment personne, en fait, aucun philosophe qui travaille sur ces questions qui n'aimerait pas y être. Ah. Donc, moi, ça s'est joué d'un concours de chance et de circonstances particulières, mais je pense qu'il y a aujourd'hui, en tout cas pour toute une nouvelle génération de philosophes, une vraie volonté d'aller sur le terrain et une vraie compréhension de se dire, mais en fait, ces nouvelles technologies, si on est juste en université, dans son petit département de philosophie, alors, on peut aller visiter les collègues qui sont au département d'informatique, c'est déjà une belle ouverture. Mais si on reste en fait dans un entre-soi pur, dans une tour d'ivoire, comme les philosophes l'ont fait pendant longtemps, bah, on n'est plus du tout pertinent en fait, on ne comprend pas ce qui se passe, on n'est donc pas pertinent pour penser ces questions-là. Ça ne veut pas dire qu'il faille devenir expert en machine learning pour pouvoir commencer à faire de la philosophie de l'IA, mais ça veut dire qu'il faut quand même comprendre un minimum qui sont les gens qui travaillent dessus, pourquoi, dans quel environnement et quels sont les technos sur lesquels ils travaillent.
Oui. Et oui, grande news pour tout le monde, hein. La philosophie, c'est pas simplement rêver ou réfléchir avec soi-même, soliloquer, mais c'est aller sur le terrain, se confronter à la réalité. Et c'est pour ça que tu as choisi d'aller en entreprise et particulièrement chez Meta.
Alors justement, j'imagine que quand tu veux te confronter à la réalité, c'est aussi l'envie d'avoir un impact sur les actions qui sont réalisées. Comment on le vit ça chez Facebook ou ne nous l'aurons pas, et pardon si je prends un peu des raccourcis, on sait bien que l'éthique... dans une entreprise comme ça, et peut-être bien chez Facebook en particulier, c'est un peu la dernière roue du carrosse, quoi.
Alors, oui et non. peut-être deux choses à préciser. Moi, quand je suis rentré chez Facebook à l'époque, j'étais dans une entité qui s'appelle Facebook AI Research, qui était un laboratoire de recherche fondamentale en IA. Donc là, c'était une expérience, en fait, où c'est peut-être un paradis, on pourrait appeler ça, pour des chercheurs. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de ressources, vous avez beaucoup de données, et puis on vous donne beaucoup de champs libres, en fait, pour travailler sur des sujets tout à fait novateurs. Donc, ça a été un grand labo pendant longtemps qui a permis beaucoup de choses dans ce sens-là. Et de ce point de vue-là, moi, ma recherche était très libre. J'ai pu travailler sur à peu près tous les sujets que je voulais, que je trouvais intéressants, dans une grande liberté. Mm-hmm. Ça, d'un point de vue de recherche, c'est super. D'un point de vue impact, un peu moins, parce que vous êtes dans un labo de recherche fondamental.
Ouais, d'accord.
Okay. Après, j'ai transitionné sur une autre équipe qui s'appelle Responsible AI, qui s'appelait, parce qu'elle n'existe plus depuis deux ou trois semaines. Et là, c'était beaucoup moins de recherche, beaucoup plus d'impact géré sur les produits, parce que j'étais en charge de gérer l'éthique pour... voilà, mettre en place l'éthique pour tous les produits d'IA générative de la boîte. Mais pour répondre à votre question, donc l'éthique, c'est important. Je pense que Meta s'en rend plus compte que beaucoup d'autres parce que typiquement, il y a des éthiciens et des philosophes. Moi, je ne connais pas d'autres entreprises à part Google où il y en a. Donc, on peut leur jeter la pierre et je ne serai pas le dernier à le faire, mais je pense quand même qu'il faut leur reconnaître ça. Et puis, l'autre point, c'est bon, évidemment, c'est comme toute entreprise. Vous avez des considérations, vous avez différentes équipes qui essaient de pousser leur point. Puis, c'est une négociation à la fin.
Mais est-ce que quelque part, parce que tu dis effectivement ils ont des philosophes, mais du coup est-ce que vous vous sentez pas un petit peu comme un faire-valoir en étant là? On parle de Facebook, c'est quand même l'entreprise à qui on a connu Cambridge Analytica et tout ce qui s'en est suivi autour de l'élection de Trump, autour du Brexit en particulier. On parle des Facebook Files où il y a eu des fuites incroyables. On parle de toutes les fuites de données avec les dizaines et les centaines de partenaires de Facebook. On parle du même Facebook qui sait pertinemment qu'il fait du mal aux adolescentes et qui continue à alimenter les moteurs de recommandation, les swaps infinis et compagnie, alors qu'il sait très bien que ça fait du mal à la santé mentale de ses principaux clients, de ses principaux utilisateurs. Donc tu vois, ma question elle est aussi personnelle pour toi, pour comprendre. Tu te sens pas des fois un peu comme un faire-valoir dans une organisation comme ça?
C'est une bonne question. Je pense que c'est une question que toute éthicienne entreprise doit se poser. Est-ce que je suis encore dans l'action ou est-ce que je suis dans la représentation? Dans mon cas particulier, j'ai fait assez peu de représentation. Je faisais que de la représentation pour présenter mes recherches, en fait. Donc, toujours des choses qui étaient choisies. On ne m'a pas utilisé comme faire-valoir à ce niveau-là. Les autres éthiciens n'ont pas été utilisés comme faire-valoir non plus, à ma connaissance. On a été trois. Ma réponse rapide serait non. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas pour d'autres entreprises. En tout cas, dans mon cas personnel, ça n'a pas été le cas.
Tu n'étais pas en représentation pour eux, ça, on a bien compris. Mais je pense que peut-être, Mick, je parle sans vouloir le faire à ta place, mais pas représenter, enfin, faire-valoir, c'est peut-être cette notion de ethics washing, le fait même de dire qu'on a une direction de l'éthique, ou en tout cas des gens qui s'en occupent, avant de les licencier, parce que tu viens de le rappeler toi-même, la division dans laquelle tu étais, ben, finalement, n'existe plus. Microsoft, en 2023, le jour même où OpenAI sort GPT-4, vire l'ensemble des éthiciens qui étaient en charge de l'éthique de l'IA. Enfin, globalement, tous ces GAFAM qui avaient des éthiciens ont fini par les sortir.
Tu peux citer aussi Twitter quand il a été racheté par Musk. Effectivement, les éthiciens faisaient partie aussi de la première vague.
Donc, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas un argument un petit peu marketing et puis
Alors, messieurs, par contre, on va pas tous les mettre dans le même panier. Twitter, ça n'a rien à voir.
Ouais, on est encore dans autre chose.
Restons entre gens sérieux. non, mais je vois tout à fait votre point. C'est une question qui est absolument fondamentale. Déjà, un petit peu de précision. Certaines équipes ont été licenciées. Je suis complètement d'accord avec vous. Il y a eu une razzia l'année dernière. Maintenant, pour l'équipe responsable de Meta, en fait, elle a été transférée. Il y a une autre équipe qui a sauté l'an dernier. Pour Microsoft, il y a effectivement une équipe qui a sauté, mais l'éthique est encore faite dans une autre division qui s'appelle Office of Responsible AI. Donc, il y a des réarrangements. C'est-à-dire qu'effectivement, j'abonde dans votre sens. Il y a beaucoup moins de gens qui travaillent là-dessus que ça n'a pu être le cas. Ça vient aussi sans doute du contexte actuel. Vous savez qu'il y a quand même un contexte qui est difficile, hein, en particulier pour la tech en ce moment.
Oui, ce ne sont pas les seuls qui ont été licenciés, effectivement. Il y a des chats entières.
Oui. Je pense que celui qui résume très bien ça, c'est Peter Thiel, dans son très grand livre « From Zero to One », où il dit, en fait, bon, il y a des entreprises, quand elles ont plein d'argent, comme Google à ce moment-là et comme Meta, embauchent des éthiciens en se disant, bon, on va peut-être penser au futur de l'humanité. Et puis, quand elles sont rappelées à l'ordre par les réalités du marché, bon, c'est peut-être les équipes qui sont les moins utiles à ce moment-là, en tout cas.
C'est clair.
Mais du coup, tu as travaillé sur quelle recherche, sur quel sujet chez Meta, si on essaie de comprendre un peu la journée...
Pas hors du concret,
palpé. C'est quoi la journée d'un éthicien chez Meta?
Alors, ça dépend de ce que je faisais à faire ou à Responsible AI, mais typiquement, pour vous donner une idée, mes recherches étaient très libres. Donc, j'ai travaillé en particulier sur des informations, sur la haine en ligne, sur les questions de comparaison sociale que vous mentionniez avec l'affaire Frances Haugens. Donc, ça, c'est des sujets sur lesquels je travaille, que je connais bien. Une journée type, on va dire, ça dépend complètement, parce que j'enseignais à côté, je faisais beaucoup de choses, mais ça, en général, c'était de la lecture philosophique. Donc, je vais lire Aristote et les autres amis le matin. Et puis, l'après-midi, c'est plutôt de l'analyse de données, de la rédaction de papier. Voilà à peu près une journée de chercheur.
Je comprends, mais ça va être le rêve de tout philosophe. Évidemment, le matin, tu étudies les grands philosophes et l'après-midi, tu peux les appliquer sur un terrain de jeu fantastique à l'échelle de l'humanité. Tu m'étonnes.
Je ne suis pas philosophe, mais ça m'intéresse aussi.
C'est clair.
Mark Zuckerberg, il a lu Aristote? Non, mais blague à part, Mark Zuckerberg et l'éthique, ça fait bon ménage en vrai?
Alors je ne le connais pas personnellement, donc je ne saurais pas répondre à sa place. Je ne sais pas s'il a lu Aristote, mais je sais que Peter Thiel a lu Aristote. Ça en fait au moins un.
Ouais, et puis on reste sur des gens quand même, mille de rien, assez cultivés. Faut pas trop tomber dans des caricatures.
Alors, ma question, c'était pas tellement ça, mais c'est-à-dire que quand on connaît l'origine du projet en matière d'éthique ou en matière de morale, d'ailleurs ça pourrait être intéressant qu'un philosophe nous éclaire sur la différence qu'on peut faire. C'était pas forcément le premier truc auquel on aurait pensé. Enfin, c'était plus ça le sens de ma question.
Comment ça se passe tu disais que tu avais travaillé donc sur les sujets de modération, pour en prendre un par exemple. Comment ça se passe à Facebook, du coup, ces sujets de modération? Comment ils sont abordés, sachant que ça se passe à l'échelle mondiale, que les réglementations ne sont pas les mêmes, notamment en Europe, elles ont été renforcées récemment, et que même je pense que l'intention de modération ne doit pas être la même en Europe, en Afrique, en Asie, et aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas les mêmes attentes des citoyens, des utilisateurs face à ça.
Alors, Vous, je ne sais pas, moi, je ne suis plus chez Meta. Donc, comment Meta l'aborde, ça, je peux vous renseigner un peu. C'est effectivement le vrai gros problème. On va dire le problème, il est double. Premièrement, c'est une question qui est assez complexe. Si on pense à des informations, c'est déjà complexe. Définir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui vient surtout, en fait, quelles sont les sources, comment est-ce qu'on vérifie ça. Ça, c'est un problème important. C'est encore plus compliqué quand on va sur de la haine en ligne, du cyberharcèlement. Donc, c'est des sujets qui sont complexes à la base. Et la deuxième couche de complexité, c'est le volume, évidemment. Quand vous avez 4 milliards d'utilisateurs, si vous êtes sur des volumes de signalement, vous êtes sur des volumes de contenu problématique qui sont complètement hallucinants. Et le troisième point, peut-être qu'on peut rajouter, c'est le temps. Il faut non seulement trouver les bonnes réponses à un enjeu qui est énorme en très peu de temps. Parce que si vous débunkez une fausse information 6 mois plus tard, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, ces trois points-là sont adressés. On peut toujours améliorer, ça c'est sûr. En tout cas, je trouve que c'est quand même plutôt efficace la manière dont Meta gère la désinformation. Enfin, on peut toujours améliorer encore une fois, mais je trouve que le système qui a été mis en place n'est pas si mal. Et pour le dire rapidement, en fait, il y a une alliance entre des algorithmes de détection qui font des premiers filtres. Ensuite, vous avez des journalistes qui sont spécialisés sur ces questions-là et qui vont associer en fait à chaque contenu, c'est eux qui gèrent ça, des réponses. Est-ce qu'on fait sauter ou on ne fait pas sauter. Ensuite, vous avez des réponses de plateforme. Il y a encore une couche d'IA qui va permettre d'appliquer ces réponses en fait à l'ensemble des contenus qui sont similaires. Comme ça, les fact-checkers ne revoient pas 20 fois le même contenu. En tout cas, dans l'idéal, c'est comme ça que ça se passe.
Et comment ça se passe? Je voudrais revenir aussi, tu nous disais que tu avais travaillé sur l'affaire Frances Haugen, je crois que c'est ça son nom.
Oui.
Enfin, j'ai pas le bon accent, mais je crois que c'est ça. Donc sur l'image qu'ont les adolescentes en particulier quand elles sont constamment exposées à des contenus où c'est des femmes qui se mettent vraiment en avant, très sexualisées, très belles, très maquillées, etc. etc. et que du coup, ça renvoie une image négative en particulier à certaines adolescentes qui pourraient être fragiles ou autres. Bon, tu fais cette découverte-là, tu disais que tu avais travaillé sur ce sujet. Vous faites cette découverte, vous comprenez ce mécanisme-là au sein du labo, vous en faites un papier de recherche qui est maintenant connu. Mais comment ça se passe? Moi, si j'étais en entreprise, je ferais un beau PowerPoint, j'irais voir mon patron, il faudrait que je remonte ça au CODIR, et puis ensuite au CODIR, on discute de ce qu'on ferait par rapport à ça. C'est pareil? Chez Facebook, ça marche aussi comme ça?
Alors, ça dépend si c'est dans les équipes de recherche ou dans les équipes de recherche produit. Il y a des remontées qui sont différentes parce que les organisations n'ont pas le même but. Mais ils ne travaillent pas sur les mêmes sujets. Moi, je n'ai pas travaillé en particulier sur l'image des jeunes là-dessus. Je travaille de façon plus générale sur les comprendre en profondeur, on va dire, la psychologie et la construction des réseaux d'influenceurs, le type d'influence qui se dégage de ces choses-là.
D'accord.
Après, juste, donc, je ne veux pas me prononcer trop sur cette recherche parce que je n'étais pas dedans. Par contre, il y a juste un point qui me paraît important, c'est que, enfin, deux choses à notifier. Premièrement, c'est qu'il y a des recherches qui étaient connues de Meta, notamment une super chercheuse de Meta qui s'appelle Moira Burke, qui travaille sur ces questions, qui a publié sur ces questions. Je voudrais juste dire aux sénateurs américains que parfois, il suffit juste de faire une recherche Google et de voir que Meta a publié là-dessus. Et le deuxième point, c'est que, en fait, ce n'est pas une nouveauté que les jeunes se comparent les uns les autres. En philosophie, on connaît ça depuis plus de 2000 ans. Donc, imaginez que ça passe aujourd'hui par Instagram et par d'autres réseaux, bon, ça paraît à peu près évident. Ça ne veut pas dire que... Je ne cautionne pas du tout ce qu'a pu faire Meta là-dessus, mais ce n'est pas une découverte fondamentale. Je veux dire, c'est quelque chose qui aurait dû être adressé depuis longtemps.
Finalement, c'est une transposition de quelque chose de très connu dans le monde et dans les outils modernes. Quoi. C'est ça que tu es en train de...
Avec la notion de masse que tu évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'accès en masse à ça a provoqué, je crois notamment, on l'évoque assez souvent cet exemple, l'accès, ou en tout cas une demande d'accès à la chirurgie esthétique pour ces jeunes filles avec ce qu'on a appelé l'Instagram dysmorphia. Je veux ressembler à, justement, Kim Kardashian, je ne sais qui. Et il y a quand même des répercussions au-delà de la santé mentale aussi sur le physique parfois.
Ah, absolument. Après, mon point, c'était plutôt, vous allez dans n'importe quel cours d'école, vous savez qu'il y a des gens qui sont harcelés. Le harcèlement scolaire, c'est une horreur, mais je pense qu'on a tous vu ça. Je connais personne qui a pu passer vers un lycée en disant « je n'ai jamais vu ça ». Donc aujourd'hui, les gens utilisent des téléphones, maintenant ils utilisent les réseaux sociaux, ça me paraît évident qu'on passe aussi par ce type de vecteur-là. L'avantage, je dirais, la nouveauté, c'est peut-être qu'on a un moyen d'action qui sont différents. On peut travailler sur les réseaux sociaux comme on ne pouvait pas le faire avant sur le temps de monde.
J'ai une petite question assez courte sur ce sujet-là, puisque tu l'as souligné au tout début de cette séquence sur le fait que tu es arrivé en 2019 chez Meta, donc quasiment à la sortie de l'affaire, on va l'appeler comme ça, Cambridge Analytica, mais également pendant la période des Facebook Files. Comment est-ce que ça a été vécu, ça, à l'intérieur?
Alors, cela en particulier, moi, sur les plus de 4 ans que j'ai passé à Meta, il y a eu beaucoup, beaucoup de scandales, des plus gros, des plus petits. Je pense que c'est pas... Bon, c'est évidemment à chaque fois un choc en interne et il y a des répercussions sur les équipes, sur les sujets de recherche, des choses qui changent, sur les procédures de recherche aussi. Maintenant, ça reste une entreprise qui a la particularité de... Je dirais que le scandale, c'est quand même un peu devenu son quotidien. Donc, c'est la manière dont les équipes fonctionnent aussi en interne sont impactées par ça.
On s'y habitue, en fait.
Oui, mais c'est un réseau social.
Ça fait partie du business du quotidien, quoi, en fait, c'est ça.
Bah, quand vous regardez le business aussi, les réseaux sociaux, c'est une économie du scandale, tout comme le journalisme, tout comme la politique. Donc, c'est un business qui se nourrit du scandale. C'est normal que les gens s'adaptent à ça, je dirais. Je pense en français que des portes ouvertes ici, mais...
Donc... Non, c'est intéressant. Moi, je n'avais pas réalisé, mais formulé comme ça, c'est vraiment intéressant.
Oui, je trouve la formule
intéressante. Que c'est un business du scandale, c'est vrai. C'est un peu comme les médias. Bah, nous aussi, t'as vu, on n'arrête pas de chercher le scandale avec toi là, sur toute cette séquence. On a vraiment centré cette séquence en profitant d'avoir un insider de Facebook, l'idée. Il faut se le dire. On va passer à d'autres choses après.
Ce qui est intéressant, et je le note, et je te remercie pour ça, c'est... ta ouverture. Franchise, ton ouverture, et par effet rebond, ça traduit aussi qu'il y a une certaine liberté de parole quand on est sorti de chez Meta, là où on pourrait s'attendre à ce qu'on ait des clauses de confidentialité très très fortes et très contraignantes. Alors c'est un épisode avec un philosophe, on l'a dit, des philosophes on en côtoie pas mal, on en a chez Trench Tech, vous connaissez Emmanuel Goffi et sa philothèque, on retrouvera tout à l'heure, mais nous retrouvons pour le moment Louis de Diesbach avec la tech entre les lignes, mais... Lui aussi philosophe qui va encore nous parler de philosophie puisqu'on va parler de la caverne de Platon.
La tech entre les lignes.
Donc je le disais, aujourd'hui la tech entre les lignes nous ramène de toutes vieilles lignes, c'est ça ?
C'est ça, un texte qui date du 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est dire si ça remonte. Mais j'ai voulu justement trouver où se trouvait la tech entre ces lignes.
Ok, alors de quelle ligne parles-tu exactement ?
Celle de la fameuse allégorie de la caverne de Platon. C'est une métaphore philosophique décrite dans son ouvrage La République et elle illustre la nature de la réalité et de la connaissance. Donc il faut que tu t'imagines dans une grotte sombre où des prisonniers sont enchaînés fixant un mur devant eux. Sur ce mur, il y a des ombres qui dansent. Elles proviennent de grandes marionnettes ou de statues, ça dépend de la traduction, qui passent entre les prisonniers et un grand feu. Pour ces prisonniers, ces ombres sont la seule réalité. Eux qui ignorent donc tout du monde extérieur puisqu'ils sont prisonniers. Mais un jour, l'un d'entre eux parvient à se libérer et découvre l'extérieur éblouissant de la caverne. Il réalise alors que les ombres dans la grotte ne sont que des illusions et plein d'enthousiasme, il retourne dans la caverne pour partager sa découverte avec ses amis prisonniers. Cependant, ces derniers refusent de croire en cette réalité extérieure parce qu'ils préfèrent leurs ombres très familières. Cette allégorie, en fait, elle illustre très puissamment que nos sens peuvent nous tromper, nous laissant dans l'ignorance que nous voulons parfois garder simplement, un peu style liker sa servitude, tu vois ce que je veux dire. Platon nous dit que les philosophes, tels les chercheurs de vérité, sont comme le prisonnier libéré. Ils remettent en question les apparences pour atteindre la vérité ultime, les formes ou les idées dans la philosophie platonicienne, qui sont les concepts abstraits à la base du monde sensible. Une invitation à explorer les profondeurs de la connaissance et à remettre en question nos perceptions.
Oui, c'est un sujet connu que beaucoup ont potassé en terminale notamment et que j'adore d'ailleurs. Mais dis-moi, quel lien fais-tu avec la tech ?
Alors, il y a de nombreuses lectures possibles, mais celle que je veux vous apporter aujourd'hui est celle-ci. Les algorithmes que nous utilisons sont précisément comme ces prisonniers enchaînés.
J'écoute.
Mais c'est-à-dire qu'ils n'ont accès qu'à une partie du réel, celle qu'on leur donne, consciemment ou inconsciemment. S'ils ne voient que des statues d'hommes blancs ou de femmes noires, ce sera pour eux leur seule réalité. Exactement comme les algorithmes bourrés de biais qui ont une connaissance du monde complètement faussée. Les algorithmes, comme les prisonniers, n'ont pas accès au monde tel que toi et moi le connaissons. Ils ne voient que les ombres, qui sont des projections, des imitations de marionnettes, elles-mêmes des imitations du réel. Donc on demande à des machines prisonnières de décrire la réalité et le vrai, alors qu'elles ne peuvent en fait que se baser sur des imitations d'imitations.
Et pour Platon, l'homme peut encore se défaire de ses chaînes pour aller voir dehors, mais l'algorithme, lui, il ne peut pas.
Précisément, et c'est bien là toute la différence avec l'humain. Nous devons tous affronter l'ignorance et la tromperie de nos sens. Mais nous avons, nous, humains, le pouvoir, par notre confrontation au réel et à autrui, de pouvoir en sortir. Et c'est pas du tout le cas des algorithmes. Ils fonctionnent tous de cette façon, hein. LLM, reconnaissance faciale, détection de fraude, j'en passe. C'est capital de garder ça en tête quand on pense à l'éthique de l'intelligence artificielle. Prendre les algorithmes pour la vérité, c'est nous assujettir nous-mêmes comme les prisonniers de la caverne. Comme une sorte de boucle sans fin, en fait. Ce qui aurait été bien, ça aurait été d'avoir Platon comme invité dans Trench Tech.
Trench Tech, esprit critique
pour Tech Éthique.
Je suis pas sûr qu'on arrivera à voir Platon dans Trench Tech, même si la saison 2024 est exceptionnelle.
Son IA.
Son IA, il faudra demander un deepfake à Gérald. Depuis quelques temps, les crises éthiques dans la tech défraient les chroniques et nos chroniqueurs aussi. ChatGPT avec les travailleurs du clic, les Facebook Files, on en a parlé, l'impact environnemental des IA, les deepfakes, ne sont que quelques éléments qui nous montrent qu'on est encore loin du compte d'un point de vue éthique. Alors, au risque de répéter ce que nous a sûrement déjà dit Emmanuel Goffi dans une de ses chroniques, et excuse-moi si je te pose cette petite question un peu binaire, Hubert, mais est-ce que tu peux nous rappeler la différence qu'il y a entre éthique et morale ?
Cette question est intolérable, je n'y répondrai pas.
Et ben voilà, et ben on va gagner du temps sur ce coup-là,
bon,
finalement.
Séquence numéro 3.
Non, bien sûr, sachant qu'Emmanuel aura sans doute une vision un petit peu différente, parce qu'entre philosophie continentale et philosophie canadienne, il y a une divergence sur ces questions-là.
Là, tu fais ton philosophe, par contre.
Très bien, je vais répondre rapidement. En fait, les deux termes, l'un vient du grec, l'autre du latin, mais on revient au même concept pour faire vite. La question réellement fondamentale, c'est comment dois-je agir ? Tout le monde se retrouve là-dessus. Sachant que, après, on va faire une petite différence entre donc, la philosophie morale ou l'éthique, en quelque sorte, qui, elle, va porter ces questions-là, va réfléchir à comment est-ce que je dois agir, d'où me viennent ces règles. Question méta-éthique aussi, comment est-ce que j'apprends sur ces règles ? Quand on me dit qu'il ne faut pas tuer, très bien, pourquoi faut-il pas tuer ? D'où ça me vient, cette connaissance-là ? Et ce qu'on appelle de façon plus générale la morale, on va dire sociale, ce qui est un petit peu le résultat de cette pensée avec du croisement de différents acteurs dans une société.
Alors, on pourrait aussi citer Paul Ricoeur, pour qui l'éthique est la visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes, d'où une question dans cette séquence qui vient interroger l'éthique, la compatibilité, disons, de l'éthique et du business dans le numérique. Est-ce qu'il est vraiment juste de laisser des entreprises exploiter nos données personnelles alors qu'il est impossible pour nous de mesurer les conséquences de nos actions en ligne ? Vous avez 4 heures.
Bah, je relayerai la question à mes étudiants, puis je reviendrai vers vous.
Ça serait intéressant, poser comme ça, ouais.
C'est pas faux.
Non, je pense que pour répondre à ces questions, il y a deux choses. Le premier point, c'est qu'il me semble, en tout cas, de ce que j'ai vu, que l'éthique est quand même prise au sérieux par les grandes entreprises tech. Enfin, j'aime pas dire les big tech, parce que je pense que les quatre ne le prennent pas au sérieux de la même façon. Dans les big tech, je pense qu'on voit tous à qui je fais référence en bas du panier, mais je pense qu'il y a une vraie prise de conscience qui vient notamment des employés qui refusent aujourd'hui certaines pratiques. Donc il y a eu une vraie poussée dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Enfin, est-ce qu'ils peuvent faire mieux ? Très clairement, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Maintenant, l'autre versant, c'est aussi, je pense qu'on peut pas juste demander de la perfection côté des trois big tech et laisser le reste du monde. Le reste du monde en répit, en fait. Et aujourd'hui, je ne vois pas plus de morale dans les autres entreprises, je finirai juste là-dessus, par rapport à elles.
J'entends hein, le niveau de perfectibilité qui ne peut que cesser de s'améliorer. Là, j'élargissais un petit peu plus la focale. Est-ce que c'est compatible véritablement ? Est-ce qu'on peut décemment imaginer parler d'éthique dans un business dont les business models, disons, semblent totalement antinomiques ?
Je ne sais pas si c'est complètement antinomique. Je pense que le plus important, c'est de faire émerger aujourd'hui. Il faut qu'il y ait de la réglementation. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'institutions qui se mettent autour de ça. Il faut mettre en place les conditions pour faire émerger un vrai avantage compétitif éthique. C'est-à-dire une absence relative de monopole sur certains secteurs, mais aussi des institutions qui vont relayer certains scandales et dire, voilà, on va valoriser les entreprises qui s'engagent dans certains sens par rapport à d'autres.
Mais c'est justement là, en fait, moi, la question qui m'interroge le plus, si on refait un peu le fil de l'histoire dans les Facebook Files, désolé d'y revenir encore, mais on a souvent parlé le fait qu'un emoji en colère était 3 fois plus important qu'un emoji qui souriait. Si on regarde aussi la façon dont TikTok traite aussi ses algorithmes, excuse-moi, je serais un peu générique, mais traite ses algorithmes, si je suis un peu dépressif, on va me donner des vidéos de suicide de 2 fois plus vite. Moi, ce qui m'interroge toujours dans ce mode de fonctionnement, c'est qu'au début, on a le choix. On a le choix, c'est pourquoi est-ce que j'ai mis un x3 sur mon emoji qui est râleur, alors que j'aurais pu faire exactement le même choix sur un emoji sourieur. Pourquoi est-ce que je propose des vidéos de suicidaires à quelqu'un qui est dépressif et que je lui donne pas des vidéos qui lui donnent envie, au contraire, de chanter la vie, comme dirait l'autre. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ces choix toujours antinomiques? Enfin, moi, c'est ça qui me surprend le plus.
Alors ça, je ne saurais pas vous répondre pour tous les acteurs ni pour toutes ces questions. En tout cas, souvent les questions sont vraiment beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. Je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, mais typiquement sur des questions de suicide, ça paraît assez évident. En fait, ce n'est pas toujours aussi évident. Et notamment, je me souviens d'un cas sur lequel j'avais travaillé où il y a une distinction qui est très fine entre relayer des gens qui disent bah, « j'ai envie de me suicider » et d'autres gens qui sont dans des cercles, justement, qui permettent des cercles d'entraide, de gens qui disent « j'avais envie de me suicider, voilà comment j'en suis sorti ». Et donc, c'est très fin, mais il peut y avoir besoin de ces cercles de support. Et en même temps, on ne veut pas diriger les gens vers des choses qui vont cautionner le suicide. Donc, souvent, c'est assez complexe. Et surtout, encore une fois, quand vous traitez autant de sujets à une échelle de 4 milliards de personnes, rentrer en profondeur sur chacun des sujets, c'est vraiment un challenge.
Du coup, ça veut dire que dans ces entreprises, c'est vraiment à l'échelle de 4 milliards de personnes. Parce qu'on pourrait imaginer, tu vois, que les algorithmes ou le mode de fonctionnement ou les règles de gestion, comme on dirait dans les entreprises traditionnelles, les règles de gestion soient vraiment séparées et ne soient pas du tout les mêmes pour l'Europe, pour les États-Unis, pour le Canada, pour l'Amérique du Sud, etc. Non, c'est vraiment vu en un seul bloc.
Bah, vos algorithmes sont quand même assez peu fine-tunés, on dirait, par pays, parce que même si les régulations varient un petit peu, c'est quand même grosso modo la même chose, les mêmes procédures qui sont appliquées partout. Et donc aujourd'hui, on n'a pas un niveau de granularité, je dirais, sur les pays, sur tous ces sujets-là.
Les régulations changent, j'entends, mais la notion même d'éthique ou de morale, peu importe, varie également d'un bloc à l'autre. Mmh. Et ça, c'est un point qu'on a souvent abordé, notamment avec Emmanuel. Qu'est-ce qu'on en fait du coup? Est-ce qu'on peut véritablement standardiser des algorithmes à l'échelle d'une planète, en tout cas de 4 milliards de personnes, avec des croyances, avec des systèmes de pensée qui sont très différents de l'Asie, par exemple, à l'Occident?
Il y a deux choses. Si on revient sur la modération des contenus, typiquement ce qui est fait aujourd'hui, les algorithmes sont les mêmes, on va dire, pour à peu près l'essentiel de la population, enfin des populations. Par contre, les décisions vont être prises par des modérateurs de contenu qui, eux, sont spécifiques au pays. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut avoir de la granularité sur la modération. Maintenant, c'est un grand challenge aujourd'hui, notamment pour les LLM. Vous savez qu'il y a quand même pas mal de chercheurs qui se posent cette question, de dire comment est-ce qu'on va fine-tuner ça.
Les grands modèles de langage, c'est ce qui est derrière ChatGPT, par exemple. C'est le moteur qui est derrière, c'est un LLM, un grand modèle de langage.
Vas-y, exactement. Pardon, Hubert. et tout ça pour dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est une question vraiment importante dans la communauté de recherche, de dire comment est-ce qu'on prend ces modèles-là et qu'on les fine-tune, c'est-à-dire qu'on les adapte aux différentes populations, quelle est la bonne échelle, est-ce que ça doit être fait au niveau des communautés, est-ce que ça doit être fait au niveau des régions, des pays, pour prendre en compte justement ce pluralisme moral que vous mentionniez.
En éthique aussi, il me semble qu'il y a un peu l'art et la manière finalement. C'est-à-dire, j'aime bien revenir à la raison d'être des entreprises. Je pense que la raison d'être d'un Facebook, je ne sais pas si elle est formulée ou comment ils l'ont formulée, mais j'imagine c'est connecter les gens. On a beaucoup entendu de déclarations de Mark Zuckerberg autour de ça, arriver à connecter, à rapprocher les gens. Donc l'intention est géniale au départ. À chaque fois qu'on va créer plus d'humanité, à chaque fois qu'on va créer de nouveaux échanges entre les personnes, ça ne pourra être que bien. Mais ensuite, du coup, c'est la manière de faire qui parfois merde totalement d'un point de vue éthique, non?
Rapprocher les gens, c'est oui, c'est à double tranchant, comme toujours. Il y a ceux qui vont s'aimer, il y a ceux qui vont pas s'aimer. Puis en les rapprochant, vous forcez des interactions. Mais je pense qu'il faut pas oublier à la fin que les hommes sont pas des anges. Et malheureusement, quels que soient les outils qu'on met en place, ils vont l'utiliser à bon et à mauvais escient.
Et du coup, la question de l'hubris de ces patrons, de géants de la tech, disons, puisqu'on a évoqué aussi ce sujet pas mal de fois dans TrenchTech. Toi, quelle est ta vision de philosophe là-dessus, ce côté démiurge de certains qui voudraient, alors au meilleur des cas, soit effectivement rassembler tout le monde à l'échelle de la planète, créer un langage universel, et ça fait référence à la tour de Babel, voir si on tire encore plus loin, on évoquait tout à l'heure Peter Thiel, les aspects transhumanistes. Quelle est ta vision de philosophe, d'autant que tu vis aux États-Unis et que ces courants-là sont un peu plus en vogue aux États-Unis, alors peut-être pas à New York, mais plus dans la Silicon Valley, mais en tout cas plus qu'en France?
Oui, complètement. Et ça, je pense que c'est un point fondamental, même beaucoup plus intéressant pour un philosophe que le reste, c'est essayer de comprendre, on peut dire, c'est je ne sais pas comment les appeler, parce que ce n'est pas des super-héros, mais c'est, c'est demi-dieux, on pourrait les appeler, voilà, qui ont un pouvoir absolument exceptionnel. Quel est le projet qu'ils entreprennent pour le monde ? Vous n'avez quasiment pas un grand patron de Big Tech qui n'a pas financé une entreprise qui vise à trouver l'immortalité. Je voyais ça récemment pour même Sam Altman, CME, Jeff Bezos aussi. Enfin, ils ont tous une entité, c'est Calico pour Google par exemple. Oui. Ils ont tous une entité qui dit comment est-ce qu'on on va vers la fin de la mort. Et, oui. Et ça me paraît problématique parce que c'est un débat dans lequel personne n'est engagé. Vous avez des gens qui financent ça en disant nous on veut ça pour le futur. Il n'y a aucun débat de société là-dessus.
Exactement. Et d'autant que du coup ça préside à notre destinée en tant qu'être humain d'une certaine manière, cette volonté d'éradiquer la mort. Et puis on peut citer effectivement le pape du transhumanisme qui est chez Alphabet, hein, Ray Kurzweil, que tout le monde ou presque connaît. Oui, pardon, j'en perds le fil de ma question, mais là où je voulais en venir, c'était... ah bah merde,
la quête d'immortalité.
Oui, mais c'est, oui, mais attends, j'aurais pas dû digresser sur Eckersweil, j'ai vu sa tête apparaître devant mes yeux, et là, ça m'a complètement coupé le reste de ma phrase.
Non, que certains veulent un projet d'humanité qu'on
oui,
nous a même pas demandé
coup,
pourquoi.
Ça préside à notre destinée, alors que justement, toutes ces recherches qui sont financées par des entreprises géantes ne le sont pas par des institutions publiques, et donc in fine, ça va driver vachement notre futur. Donc c'est là, selon toi, quelle est la question ?
La question est toujours plus large. La question, c'est aussi, vous savez que la nature a horreur du vide. Quel est le vide auquel vient répondre ces aspirations-là ? C'est ce que les philosophes appellent la crise de la modernité depuis un moment. On n'arrive plus et de moins en moins à rêver d'un futur. Je veux dire, pour la génération qui arrive, on est tous en crise, le monde est en flammes. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est un petit peu le genre de monde qu'on donne aux jeunes aujourd'hui. Et vous avez des gens qui leur disent, venez dans... venez rejoindre le terrorisme et des versions religieuses radicales, ça appelle beaucoup. Et puis, vous avez d'autres qui lui disent, écoutez, nous, on a une autre proposition, on va vous rendre immortel. Vous allez devenir des dieux. Bon, on n'est pas très loin au final, mais c'est ce type de grand élan qui est instigé par comme une réponse américaine de l'ultra-libéral. Et effectivement, je vais juste rajouter un point qui est que quand on a un Elon Musk, par exemple, il y a 6 mois, vous vous souvenez, qui disait, attention, l'LLM, on va faire un moratoire pendant 6 mois. Tout le monde ne parlait que de ça. Bon, quand vous connaissez un peu les milieux, vous savez que c'était quand même assez instrumentalisé. Il était en même temps, il venait de lancer, au moment où Sinsa venait de lancer son entreprise pour faire concurrence à OpenAI. Et surtout, il a obtenu un mois plus tard l'agrément de la FDA américaine pour faire des tests de ces technologies Neuralink sur des humains. Et là, on n'a absolument aucun débat public, par contre. Ce qui était quand même le but de dire, on va faire un débat public sur l'LLM avant de pousser ça.
Exactement.
Donc, vous avez des discours qui sont pluriels.
Des discours pluriels, effectivement. Gérald Olubovitch nous parlait de la stratégie du choc sur ce fait d'agiter un chiffon rouge sur un truc qui était quasiment une chimère, mais pour éviter qu'on s'intéresse à
la
question, effectivement. Ouais. Et Elon Musk, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, notamment sur ce côté super-héros que tu évoquais tout à l'heure, quand il voulait défier à main nue, je ne sais plus qui, en Russie, au tout début de la guerre d'Ukraine. Ben, on voit bien son côté Tony Stark, en tout cas celui qu'il cherche à incarner, ouais, c'est sûr.
Et du coup, moi, je vous propose de... faire une petite pause, de se balader un petit peu au Japon et puis de voir avec Emmanuel ce qu'on appelle le paradoxe du bateau de Thésée.
De la philo, de la tech, c'est Philotech.
Alors aujourd'hui, Emmanuel, tu vas nous parler d'un roman de Rie Kudan, romancière japonaise qui a reçu un prix pour son livre La Tour de la Compassion de Tokyo. Et tu veux revenir en spécifique sur une de ces phrases qui a défrayé la chronique littéraire, car elle dit que 5% de ce récit sont des phrases créées par l'IA que j'ai reprises telles quelles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Alors la première chose qu'il faut préciser, c'est que le prix Akutagawa, eh bien, c'est le plus prestigieux prix littéraire japonais, l'équivalent de notre Goncourt, ce qui explique d'ailleurs la portée de la déclaration que tu viens de citer. Rie Kudan, elle a en effet expliqué que pour écrire son roman, elle a, je la cite, « employé tout le potentiel de l'IA pour l'écrire », et que donc une partie, 5% de celui-ci, est constituée de phrases construites par ChatGPT. Alors du coup, elle a fait l'objet d'une condamnation sans appel, mais surtout sans savoir. Ce qui pose d'ailleurs la question de l'arbitraire d'une condamnation qui est au moins aussi inquiétante sur le plan éthique que l'utilisation de ChatGPT. La question qui se pose, c'est essentiellement de savoir si un auteur qui produit une œuvre littéraire avec l'aide d'un système d'IA générative en est toujours l'auteur, et par voie de conséquence, s'il ou elle est éligible à une récompense. En d'autres termes, est-ce que utiliser une IA génératrice de texte pour écrire un livre, eh bien c'est tricher ? Alors pour Jean-Baptiste Andrea, qui est lauréat du Goncourt 2023, la réponse semble évidente. La pratique est inadmissible au motif que, dit-il, l'autrice n'est pas l'autrice de 5% de ce livre. Il y a, je le cite, tromperie sur la marchandise, il y a tricherie.
Ouais, mais ça c'est ce qu'il dit, mais du coup c'est triche ou pas triche ?
Alors il y a deux éléments à prendre en compte pour répondre ou essayer de répondre à ta question. D'une part, il est clair que la condamnation en tricherie, elle repose sur une parfaite méconnaissance du roman de Riekoudan et un manque volontaire ou non d'ailleurs d'objectivité. En fait, le roman, c'est un récit futuriste dans lequel l'intelligence artificielle est un acteur à part entière, auquel sont attribués des propos. Et ce sont spécifiquement ces propos que Koudan a repris textuellement de ChatGPT. Rien de choquant à mon sens à utiliser une IA pour générer des propos attribués à une IA. D'autre part, cette condamnation, elle est complètement décontextualisée. Alors tu te souviens qu'on avait parlé lors d'une précédente chronique du rapport à la technologie au Japon. Eh bien le cas qui nous concerne, il est illustratif de la méconnaissance des cadres culturels dans lesquels s'inscrivent des questions éthiques. En l'occurrence, un des membres du jury, Keiichiro Hirano, qui est lui-même auteur, a défendu Riekoudan, et un responsable du comité d'attribution du prix a même affirmé, je le cite, que le sujet de l'intelligence artificielle n'a pas fait débat parmi les membres du jury, ajoutant « Pour nous, il n'y a rien à commenter, pas de problème ».
Donc du coup, le jugement est culturellement biaisé, hein, et la question de la triche, du coup, ça se pose pas.
Alors la question de la triche, elle peut tout à fait se poser, mais elle doit être contextualisée. En tout état de cause, il est intéressant de constater qu'au-delà même de l'utilisation de ChatGPT, c'est le naturel avec lequel Riekoudan a fait sa déclaration qui a surpris les commentateurs occidentaux. Ce qui montre bien le différentiel d'approche du sujet entre le Japon et l'Occident. Alors l'anathème dont l'autrice est frappée, il est arbitraire et clairement biaisé. Mais la question de la triche, elle reste pertinente. On pourrait se demander à quel moment un travail qui utilise des éléments fournis par un système d'intelligence artificielle est considéré comme n'étant plus attribuable à son auteur. Alors, clin d'œil à mon ami Enrico Panay, ça me rappelle le paradoxe du bateau de Thésée qui pose la question de savoir à partir de quel moment le bateau qui a subi des réparations au cours du temps n'est en fait plus le bateau de Thésée, puisque certaines de ses parties ont été remplacées ou restaurées et ne sont donc plus originales. Alors le seul moyen de se positionner reste de délibérer et de faire preuve d'esprit critique. Et si Jean-Baptiste Andrea, le récipiendaire du prix Goncourt, avait écouté Trench Tech, eh bien il n'aurait certainement pas pendu arbitrairement sa consœur japonaise au écourt.
French Tech, esprit critique pour Tech Éthique.
Alors Hubert, nous on te voit à l'écran, on te voit réagir en même temps à nos chroniques. Est-ce que tu as envie de réagir sur la chronique d'Emmanuel que tu connais, je crois, en plus?
Oui, que je connais bien, c'est un bon copain. Bah, toujours très pertinent, je vois.
Et c'est clair.
C'est vrai qu'aller chercher des réponses dans les mythes, c'est souvent intéressant.
Ouais, c'est joli, on l'aime bien, on le garde, on lui fait la bise au passage. À
d'ailleurs, je sais que tu connais aussi Julien de Sanctis avec qui je suis connecté en ce moment même et il te salue. Julien de Sanctis qu'on a reçu dans Trench Tech en 16 mois.
Bon, tout le monde est là.
Tout le monde est là. On t'écoute tous. Bon, Hubert, pour revenir à nos moutons, bon, il ne faut pas se mentir quand même. Hein. Pour beaucoup de personnes, les philosophes, c'est les profs de lycée avec des souvenirs plus ou moins mitigés, éventuellement un prof de fac. Pour beaucoup, c'est surtout des rats de bibliothèque complètement déconnectés de la réalité. D'ailleurs, pourquoi on leur demanderait leur avis finalement à ces rats de bibliothèque? Ils ne voient même pas le jour. Et puis pour certains, philosophe, ce n'est même pas un métier. Hein. Il faut se le dire. Je caricature à peine.
C'est un hobby.
Je ne suis pas de ces gens-là. Moi, j'écoute Emmanuel et Julien et, enfin, voilà, et toute la bande. Mais pour toi, c'est non seulement un métier, mais tu es en plus convaincu qu'il faut l'exercer là où ça se passe, sur le terrain et finalement au plus près, au cœur des entreprises. Quelle est ta démarche? Parce que c'est vrai qu'on croise assez peu de philosophes. Ça fait 23 ans que je suis dans le monde de l'entreprise. J'ai rarement fait des meetings avec des philosophes.
Ils arrivent.
C'est... On les voit.
Philosophers are coming.
gros disclaimer là-dessus. Mais je pense qu'il y a une question de génération surtout sur ces sujets-là. Je peux vous parler de mon cas personnel rapidement, mais je pense que l'appétence dont je vous parlais, il y a des gens qui sont plus portés vers la philosophie que d'autres. Voilà. Mais on a aussi un effet générationnel et je salue du coup Julien, on est de la même génération et je pense qu'on a eu les mêmes aspirations. Il a aussi fait sa thèse en CIF, donc il est parti en entreprise pour faire de sa philosophie. Et je pense qu'il y a une nouvelle génération qui dit, en fait, c'est très bien, on a envie de faire de la philosophie parce que c'est comme ça qu'on voit le monde. Moi, je ne vois pas le monde différemment. Je ne peux pas le voir différemment. Et en même temps, pour faire des expressions présentielles, et en même temps, le monde brûle autour de nous et on se dit, nous, on peut pas se permettre juste de rester dans une université à lire des bouquins jusqu'à la fin de nos jours. Donc, comment est-ce qu'on concilie les deux? Quelles sont les méthodes qu'on doit développer? Et puis, comment est-ce qu'on fait en sorte aussi que les gens comprennent et écoutent ce qu'on a à dire en termes de philosophie? Ça, je pense que c'est une vraie réflexion.
Et ça, tu dis que c'est assez récent, finalement. C'est une question pour toi générationnelle. Vraiment, la philo en entreprise, on n'en parlait pas il y a 20 ans, 30 ans, je ne sais pas.
Bah,
ou
écoute,
on l'a raté.
Je vais te donner un exemple. Quand j'étais en fin de Master 2, j'avais un très grand professeur en face de moi qui nous parlait de quand
c'était
très, très grand expert.
C'était il y a combien de temps, ta fin de Master 2, juste qu'on resitue les gens.
Attends, tu vas te faire mal, la mic.
Il doit y avoir, je ne sais pas, peut-être 6-7 ans, quelque chose comme ça.
D'accord. Oh, ça fait mal, merde, putain.
Et donc, ce grand ponte de Kant, qui nous parlait de Kant depuis tout un semestre, nous dit, mais vous savez, aujourd'hui, il est en train de se passer des crimes de guerre, il y a des viols de masse dans des conflits, et Kant nous aide pas là-dessus. Et je le regarde un petit peu médusé, je vois toute l'audience qui le regarde médusé en disant, bah oui, mais nous, on a compris ça. Et là, j'ai vu vraiment un décalage générationnel entre la vieille garde, on va dire, de philosophes qui pensaient encore que la philosophie et la pensée allaient changer le monde, et les plus jeunes philosophes qui disaient, bah, en fait, on a compris que personne nous écoutait là-dessus, que la philosophie purement abstraite devait se doubler d'applications concrètes, sinon on n'allait rien changer. Donc je pense qu'il y a un enjeu, vraiment, vraiment générationnel, et il y a un contexte aussi qui fait qu'on est obligé de s'engager un petit peu plus.
Justement, parce que est-ce que c'est générationnel ou est-ce que justement la technique maintenant, alors forcément on va parler technique, mais est-ce que la technique a été tellement poussée qu'il est plus possible de faire autrement ? Dit autrement, on voit bien qu'aujourd'hui la planète brûle, tu l'as signalé, et donc du coup on n'a plus le choix que de s'en préoccuper. Et là finalement on a poussé la technique tellement loin que oui, effectivement, vous êtes obligé de sortir de la caverne, pour faire une petite référence, et venir prêcher un peu dans le public les choses qui sont nécessaires, parce que ça brûle.
Il y a développé un discours. Je pense qu'il y a trois choses. Là, je vais faire mon philosophe.
Non,
je vais
être très vite. Par la première.
Non, la première, déjà, c'est se dire pourquoi est-ce que plus personne nous écoute, et se dire, bah, en fait, peut-être qu'il y a autre chose à faire que écrire des livres et puis parler de concepts abstraits. Donc, il y a une question sur les méthodes. Il y a une deuxième qui est aller au contact, je dirais, du monde qui change. Donc ça, c'est ma démarche plus de terrain, aller vers les entreprises. Ça ne sert à rien de parler de technologie si on n'a jamais mis les mains dedans. Et puis la troisième, c'est aussi se dire comment est-ce qu'on développe des moyens d'action. Parce que écrire un bouquin, c'est bien, ça ne change pas le monde. Enfin, peu de livres changent le monde. C'est aussi quels sont les types d'analyses qu'on va faire, quels sont les types de résultats qu'on peut pousser, où est-ce qu'il faut les pousser, envers quelles personnes, pour essayer d'avoir des petits impacts qui, on espère, vont s'aligner sur le long terme.
Donc la philosophie, c'est avant tout une affaire d'engagement pour essayer de transmettre des clés de lecture à qui veut bien s'en emparer pour repenser le monde et le penser P-N-S-E-R également. C'est ce que l'on s'attache aussi à faire avec Trench Tech.
Pour beaucoup P-E-N ou P-A-N ?
Bah, repenser P-E-N et penser comme
P-A-N,
pensement,
ouais,
soigné effectivement. les deux.
Parce
donc,
que tu as dit P-N-S-E-R, du coup je suis là. Merde, il manque une lettre.
Je suis fatigué.
Tu mets le A ou le E, tu fais ce que tu veux. C'est justement, c'était le doublement.
Tu choisis. Voilà. Non, c'était bien les deux, effectivement. Okay. Merci d'avoir mis à plat mon jeu de mots.
Non, mais pour être sûr.
Mais bon, donc revenons-en à nos moutons. Pour beaucoup, un philosophe, c'est aussi quelqu'un qui crée des concepts. Et tu viens d'évoquer toi-même, justement, peut-être ce décalage qui peut exister avec l'ancienne garde et la nouvelle. Pour autant, je crois que tu as la paternité d'un concept qui est l'éthique computationnelle.
La philosophie computationnelle.
La philosophie, pardon, computationnelle.
Mais effectivement, alors, j'ai pas dit qu'il fallait plus, ou peut-être que j'ai dit, mais il fallait pas, qu'il fallait plus créer de concepts. J'ai juste que c'est plus suffisant aujourd'hui. Donc, il faut absolument garder cette réflexion théorique qui est, je dirais, profonde, mais il faut aussi la doubler aujourd'hui de moyens d'action, voire des spécialisations entre philosophes, parce qu'on peut pas tout faire non plus. Mais je pense que les deux sont nécessaires. Alors, en tout cas, il y a ce nouveau type qui émerge, il me semble, et j'espère, qui va continuer à émerger. Sur la philosophie computationnelle, c'est pas de quoi casser trois pattes à un canard, comme on dit dans le GER chez moi. Mais l'idée, c'est plutôt de dire, en fait, c'est plutôt une résultante de mon expérience en disant, voilà ce que j'ai essayé de faire, voilà quels sont le type de méthodes que j'essaie de pousser, voilà ce que je comprends du monde de l'entreprise et de moyens d'avoir une action là-dedans. Et donc, voilà, c'est une, on va dire, ce sont une nouvelle façon de pratiquer la philosophie pour qu'elle ait un impact.
Comment tu la définirais, cette philosophie computationnelle ?
Ça consiste en quoi ?
Ouais.
Alors, ça consiste en gros en trois choses. La première est toujours trois choses. Hein. C'est ternaire, c'est philosophie.
Thèse, antithèse, synthèse. Allez, vas-y.
Et commence toujours par la première, vas-y.
Alors, on va commencer par la conclusion.
Ah, merde.
Non, la première, c'est encore une fois aller sur le terrain. Je pense que ça, c'est tout à fait nécessaire. Et puis, moi, mon directeur de thèse, qui lui, engagé vers une philosophie de terrain, disait, on ne connaît pas la vraie question avant d'arriver sur le terrain. C'est-à-dire que vous pensez que vous allez arriver chez Meta pour traiter telle et telle question. Vous arrivez sur place, vous comprenez l'environnement, vous comprenez ce qui est en place, les gens, pourquoi ils pensent comme ça. Et quand vous arrivez à faire sens un petit peu de cet environnement, vous dites bah, « en fait, ce n'est pas du tout la question que j'avais. La vraie question, elle est là. » Et là, vous changez de sujet, vous arrivez sur un sujet qui est important.
Avec les exactement comme quand tu lances un business. Tu penses que le besoin du client, c'est ça, et c'est qu'en te confrontant au besoin du client réel que tu changes ton idée de business. Donc ça, c'est en un, il faut aller sur le terrain pour se confronter à la réalité.
Accepter le pivot, exactement. Mais en prenant garde à ce que le pivot ne soit pas dans le mauvais sens, parce qu'après, il y a l'influence du milieu qui fait que vous pouvez être tenté de partir sur des mauvaises questions. Donc le premier point, c'est ça, c'est être au contact du réel. Je pense que c'est absolument nécessaire. Le deuxième point, c'est de se comprendre aussi avec humilité qu'on ne pourra pas tout changer tout seul. Donc il faut être collaboratif. Donc c'est une philosophie qui est éminemment collaborative. On n'est pas tout seul à penser dans sa chambre. On pense à plusieurs de façon transdisciplinaire. Il faut qu'il y ait quelqu'un de un machine learner à côté de soi, il faut qu'il y ait des statisticiens, il faut qu'il y ait des économistes. Enfin, il faut pouvoir hybrider les modes de pensée pour créer des solutions en fait qui ont valeur dans les différents champs épistémiques. Je suis un petit peu technique, mais vous voyez ce que je veux dire.
On ne convainc pas. Oui, bien sûr. On voit bien que tu es très loin du rat de bibliothèque que je décrivais ironiquement avant qu'on se lance dans les questions. Donc ouais, on voit très bien. Et donc troisième point.
Juste sur ce point rapidement, c'est qu'on ne, en fait, on va pas convaincre en tant que philosophe avec des arguments philosophiques un informaticien. Lui, il pense avec, de façon générale, il pense avec des méthodes quantitatives. Il faut passer le champ du quantitatif pour lui parler. Donc il y a une transmission et une traduction à faire de type de connaissances. Et le troisième point que je finirai là, c'est produire de la recherche à impact, c'est-à-dire des connaissances quasiment de combat, on pourrait dire. Si vous voulez changer quelque chose dans une organisation, il faut amener une preuve. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi on peut faire mieux? Et donc, le but, en tout cas, de la philosophie computationnelle, c'est d'aller au bon endroit pour accéder aux bonnes ressources, pour faire émerger les bonnes connaissances, en tout cas les connaissances cibles, qui vont permettre de pousser un changement dans un sens. Je la résumerai comme ça. De terrain, collaborative et de la recherche pour produire des connaissances de combat.
Et comment ensuite tu fais pour que ça soit un véritable levier à impact dans les décisions? Je reviens sur la finalité de l'entreprise et les moyens. On l'a bien vu sur Facebook. Moi, je le vois dans d'autres entreprises. On voit régulièrement dans les médias un Sanofi, par exemple. Je trouve ça hyper paradoxal. À la fois, c'est une entreprise qui est là pour sauver les gens, pour penser avec un A, Monsieur Cyril, pour penser les plaies, pour sauver les gens, pour améliorer la santé. Tu vois, la finalité, on peut difficilement faire mieux. Et à la fois, c'est une entreprise qui, en réalité, est totalement orientée vers le business, vers la finance, vers le fait d'aller constamment sur les molécules qui rapportent le plus d'argent, etc. etc. Il y a eu moult scandales dont on a tous entendu parler. Donc, comment on peut réconcilier tout ça en s'appuyant sur la philosophie et le type d'approche que tu proposes?
Alors, déjà, je dirais qu'il y a toujours un rapport de force dans l'entreprise, n'est-ce pas? Une entreprise, c'est là pour faire de l'argent, sinon, c'est pas là. Ouais. Maintenant, si on veut qu'il y ait de l'éthique dedans, il y a des rapports de force entre différentes équipes. Et au mieux, on peut espérer un équilibre assez plutôt haut sur l'éthique, mais c'est un équilibre. Donc, et c'est simple, je dirais, moi, si j'étais au rennes de Facebook, ça serait. Facebook n'existerait plus dans 3 ans. Je voudrais juste faire de l'éthique, rendre le monde meilleur, ça serait sans doute un enfer absolu. Donc, il faut qu'il y ait différentes personnes avec différents poids. Donc, cet équilibre, il faut y participer maintenant. Moi, mon approche, c'est de dire, j'ai une approche assez cynique sur le fait de dire, de toute façon, les gens se fichent de l'éthique s'il y a du business en face. Tout le monde préfère faire de l'éthique quand le business est premier. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on développe des choses qui sont plus intelligentes et qui fonctionnent mieux, donc avec une meilleure performance sur les algorithmes ou qui augmentent la profitabilité et qui, en même temps, sont plus orientées dans une dynamique éthique. C'est l'approche que j'ai. Et la philosophie computationnelle,
pragmatique.
Il répond d'une certaine façon parce qu'elle investit. Quand vous traitez des questions de désinformation ou de haine en ligne, il faut qu'il y ait des psychologues ou des philosophes ou des anthropologues ou des sociologues, enfin des gens qui savent ce que c'est que la haine, qui ont travaillé sur la psychologie humaine pour pouvoir améliorer ces modèles. Aujourd'hui, c'est très peu le cas. Et c'est pour ça qu'il y a aussi tout un espace d'amélioration de ces modèles qui passe par du transdisciplinaire. Et c'est ce que la philosophie computationnelle essaie d'investir.
Le transdisciplinaire pour pouvoir murmurer à l'oreille des décideurs, notamment en entreprise, mais aussi des gouvernements, c'est ce que tu proposes avec ta nouvelle boîte, Quintessence. Est-ce que, à date, vous êtes entendu, parce que tu viens de nous expliquer ton parcours chez Meta, tu viens de nous dire quand même à demi-mot que si toi tu devais prendre les rênes de Meta dans 3 ans, ça n'existerait plus. Est-ce que, avec cette démarche de philosophie computationnelle, à laquelle je pense, en tout cas moi je parle en mon nom propre pour ne pas mouiller mes copains, mais j'y souscris totalement. Est-ce que,
j'en suis aussi. Est-ce qu'on présente
trois, bon, on est au moins trois. Est-ce que tu es entendu par justement les gouvernements ou les entreprises que tu essaies d'accompagner là?
Alors oui, après c'est vrai que avec Quintessence, on fait moins de philosophie computationnelle. ça c'est plus des travaux de recherche. Quintessence en fait plus du conseil stratégique en IA, sur des grandes directives en IA, des grandes orientations et
j'imagine que ça pétrit, ce conseil est quand même pétri de cette philosophie puisque c'est toi qui portes le projet.
Bien sûr, la question fondamentale c'est toujours celle du sens. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Et ça, c'est une question qu'on se pose assez peu aujourd'hui en éthique de l'IA. Vous avez des gens qui disent « Ah mince, il faut que je sois compliance, il ne faut pas que mon modèle soit biaisé sur tel critère, parce que sinon je me fais taper sur les doigts. » C'est ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, avec des critères qui n'ont pas forcément du sens pour toutes les populations, comme on l'a évoqué, ni pour tous les cas d'usage. Maintenant, le monde va mettre un peu de temps à se rendre compte de ça. Le temps que ça redescende, je pense qu'on va avoir 3-4 années avant de dire « Ben en fait, ça n'a pas de sens ici. » Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est d'accompagner une réflexion de fond en disant, on va vous aider à faire des algorithmes, on va vous aider à être en compliance avec les grands textes, on va vous aider à développer surtout une approche cohérente pour pouvoir expliquer pourquoi on fait les choses à vos employés, aux régulateurs, à la population, à vous. En fait, expliquer juste, on est en cohérence sur ce qu'on fait, on sait d'où viennent les données, on sait pourquoi on les connecte comme ça, et on peut se tromper, mais au moins, on a fait le maximum. Voilà ce qu'on essaie d'apporter comme réflexion.
Smart, j'aime bien.
Où en sont les formations de philosophie sur ces sujets-là? Parce que j'ai eu un flash entre l'intro que je t'ai faite, un peu provocatrice, et puis notre dialogue, de me dire, ouais, il y aurait plein d'endroits où ça aurait été hyper intéressant d'avoir effectivement un philosophe pour pouvoir parler des projets, du concret, etc. Mais à chaque fois que je m'étais fait cette réflexion d'entreprise, à chaque fois je me suis dit, ouais, mais un philosophe, il y aura une telle déconnexion avec la réalité de ce qu'on vit dans l'entreprise, et je pense que c'est vrai quand même dans beaucoup de cas, que ça ne va rien du tout nous apporter, qu'on arrive peut-être même pas vraiment à travailler pour amener quelque chose de concret, le temps de se comprendre. Donc, je crois que ma vision ne doit pas être si fausse, même si elle est un peu caricaturale, enfin à toi de me le dire. Mais est-ce que les formations en philosophie évoluent aussi pour les rendre plus concrètes, plus accessibles dans l'entreprise, plus activables en tout cas dans les décisions qui sont à prendre dans les entreprises, pour les gouvernements, etc.
Pas du tout. Ça, c'est problématique.
J'espérais que tu me dises, bah oui, bien sûr, bah alors. Ok, super, pas du tout.
Non, pas du tout en France, parce que, alors aux États-Unis, en Angleterre, c'est différent, parce que vous savez, il y a des questions de mineurs, de majeurs, donc personne n'étudie que la philosophie. En France, on peut étudier que la philosophie, et ça, c'est assez problématique. Déjà, c'est un peu pauvre en termes de réflexion à la fin, sur une ouverture sur le monde qui est très limitée. Et on est, dans la plupart des cas, on est incapable de travailler en entreprise. Alors certains peuvent le faire. Julia, qui est là, du coup, lui, a une double formation. Moi aussi, j'étais formé en finance.
Vous avez expliqué aussi. Hein.
Donc, je pense qu'il est urgent de développer des gens qui sont des philosophes, mais je dirais pas que des philosophes, parce qu'ils doivent comprendre le monde de l'entreprise pour pouvoir s'y insérer, ils doivent faire des stages. Enfin, ils doivent juste savoir de quoi on parle, en fait. Sinon, effectivement, vous avez des gens qui sont complètement déconnectés, qui disent on devrait faire ça. Très bien, sauf qu'ils n'ont aucune connaissance à venir d'une entreprise fonctionne, dont elle crée de la valeur et dont elle peut promouvoir un changement. Donc, il faut repenser ces cursus pour conclure.
Ouais, c'est vrai. Mais je te trouve quand même un tout petit peu dur avec l'ancienne garde parce que, alors moi, je suis pas très jeune. J'étais pas dans la tech, j'étais en business school, mais je me souviens de cours d'éthique des affaires et d'intervention de personnes comme, par exemple, André Comte-Sponville, où je pense qu'il n'avait pas trop traîné ses guêtres en entreprise non plus, mais ce qu'il nous disait nous apprenait quand même pas mal de choses sur l'aspect management, etc. En tout cas, on pouvait les mettre en perspective assez facilement. Mais bon, j'entends quand même que la jeune génération arrive avec une volonté d'en découdre davantage avec les réalités du monde de l'entreprise en allant s'y frotter d'un petit peu plus près.
Non, mais je vais peut-être juste préciser qu'effectivement, non, je ne jette pas la pierre à l'ancienne génération. On ne va pas trop généraliser non plus. Mais voilà, je voulais juste mettre en exergue le fait qu'il me semble qu'aujourd'hui, il y a une génération qui a des aspirations un petit peu différentes et qui, de façon générale, va se former différemment aussi.
Voilà, bah écoute, c'est super intéressant de voir qu'effectivement, il y a de la relève et que ces gens s'intéressent au monde de l'entreprise parce que je pense que l'entreprise a effectivement besoin de sagesse, besoin d'éthique et besoin de philosophes. Un grand merci, Hubert, d'avoir été parmi nous. Et vous qui êtes encore là avec nous, n'oubliez pas, il nous reste encore 5 minutes. C'est l'heure du débrief.
Merci, Hubert. Salut.
Merci, Hubert.
À bientôt.
Merci à vous.
French Tech, esprit critique pour tech éthique.
Alors, vous connaissez certainement la phrase « On dit que les data scientists, c'est le métier le plus sexy du 21e siècle. » Mais
non,
moi...
Après les prompt engineers.
Vous n'avez pas entendu ça? Bon, jamais. Bref, c'était une des grandes phrases d'il y a quelques années.
Non, c'est vrai. C'est que ceux qui sont dedans...
Et je ne me revendique pas des data scientists, parce que, attends, c'est un métier à part. Bref, en tout cas, c'est une vraie compétence en soi, ça c'est clair. Bon, mais moi, surtout, après avoir entendu Hubert là, pendant une petite heure, là, je suis en train de me demander si on n'est pas en train d'assister à la revanche planches des philosophes et si le philosophe pourrait pas être le métier le plus sexy du 22e siècle ou de la deuxième partie du 21e.
Ça serait pas mal. Si mal au final, quand on voit tout ce qu'il essaye d'apporter au sein de l'entreprise. Moi personnellement, ça fait quand même quelques temps que je côtoie le monde de l'entreprise. J'en ai fait quand même un paquet dans ma vie, j'en ai jamais vu un seul.
Ah ouais, alors moi j'en ai peut-être croisé un tout petit peu plus que vous, mais j'avoue que ouais, c'est probablement le métier le plus sexy du 21e siècle, en tout cas quand on voit les jeunes philosophes que l'on croise, qui sont plutôt bien sous tout rapport, beaux gosses, qui savent bien parler, qui sont jeunes et qui ont une envie féroce de changer le monde, et le monde de l'entreprise en particulier, ouais, c'est carrément philosophie sexy.
En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils ont besoin de sortir, on va dire, des librairies, sortir des bibliothèques pour justement essayer d'ancrer un petit peu plus dans le réel. C'est ça souvent qu'on reprochait à la philosophie, c'est ce côté un peu distant et leur besoin aujourd'hui de se confronter au réel. Je trouve ça vraiment génial. Enfin, c'est une dynamique et une force qu'on n'a pas souvent vue, et c'est ça que moi je ouais, retiens vraiment dans cette
et sur vidéo. Ce champ de la philosophie du réel, comme tu dis, de la philosophie de terrain, là on a été servi quand même. Parce que sur la première partie de l'épisode, d'ailleurs, je me suis dit, on a peut-être un petit peu attaqué fort d'emblée sur Uber, mais comment quelqu'un qui se dit philosophe, etc., peut avoir envie de travailler chez Facebook, qui semble être le grand méchant un petit peu de l'éthique dans
J'imagine
le numérique.
J'imagine que c'est une question qui brûlait les lèvres de tous nos auditeurs.
C'est clair. Et en même temps, bah, il nous a livré effectivement son point de vue avec une ouverture, avec une transparence, ouais. Je dois dire, à laquelle je ne m'attendais pas totalement, ne serait-ce que pour des questions de confidentialité vis-à-vis de son employeur. Mais c'est vrai que ça dénote, c'était toi qui disais, je crois, pendant l'épisode, Cyril, ça dénote aussi d'une certaine ouverture, finalement, de ces entreprises. C'est remarquable.
Exactement, oui, en creux, c'est ce que ça dit aussi. Mais pour rebondir sur le propos de Thibaut et cette proximité avec le terrain, c'est aussi, et je trouve ça vraiment intéressant, toute la démarche philosophique, justement, d'Uber, avec sa philosophie computationnelle. J'ai noté, moi, de produire des connaissances de combat. Produire des connaissances de combat, ça traduit, je trouve, tout ce que l'on est en train de se dire sur cette nouvelle philosophie au plus proche du terrain et des entreprises pour changer le monde. Moi, sinon, ce que j'ai retenu, notamment dans la première partie sur sa présence chez Meta, un ou deux trucs quand même un petit peu, moi, qui m'ont glacé globalement. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quand même qu'il nous a expliqué le processus de modération chez Meta et Facebook en particulier, en nous décrivant que c'était un savant mélange d'algo qui était entraîné forcément, mais aussi de journalistes pour le coup, pour les débunker les fake news. Ça c'était assez intéressant parce qu'on a rarement l'occasion de passer derrière le rideau. Et puis le deuxième truc, moi qui m'a un tout petit peu plus glacé, je sais pas, mais en tout cas gêné, c'est cette idée d'algo standard à l'échelle de la planète pour 4 milliards de personnes, sans fine-tuning par rapport aux spécificités, ou en tout cas au pluralisme moral, comme on l'a appelé dans l'épisode, et donc les spécificités, les croyances, et
c'est vrai que ça m'a un peu étonné, moi je m'attendais à des comportements des algorithmes des grandes plateformes, différenciés selon les grandes cultures auxquelles ils s'adressent, ou les grandes plaques géographiques à minima.
Et ça veut dire quand même une chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que ces boîtes sont américaines, et que j'imagine que les standards sont fondés quand même un petit peu sur des États-Unis. Est-ce que ce n'est pas une forme de colonialisme de l'esprit quand on raisonne comme ça, c'est-à-dire qu'on est présent sur tous les pays dans le monde, 4 milliards de personnes, je le rappelle, avec un standard qui est celui...
En tout cas, d'américanisme, on entend beaucoup aussi ce terme-là, sur le colonialisme, c'est très propre aussi aux Américains que de vouloir finalement diffuser au maximum leur culture, et on peut leur reconnaître un certain succès à la matière. Sûr. Rappelez-vous de comment les chewing-gums Hollywood ont été importés en France, c'était dans l'après-guerre, etc. Ouais,
moi, dans les éléments qu'il a remontés, il y a le dernier point qui reprend un peu sur... qui en met un coup à l'éducation nationale, un de plus, c'est qu'effectivement, s'il y a une envie d'aller se confronter au réel dans la jeune pousse philosophique au moins française, il y a un point moi, qui m'a un peu interpellé, c'est le fait que on n'a pas changé le mode d'enseigner la philosophie en France et on n'a pas adapté ce mode-là au monde de l'entreprise.
La question qui est derrière, effectivement, c'est la question de la formation des philosophes.
Exactement.
Et de rénover cette question de la formation des philosophes pour que les philosophes puissent être ce qui est en creux derrière, finalement, le plus utile aux entreprises, donc le plus utile à la société, et pas seulement en tant que penseur avec un E, mais en tant qu'activiste concret qui ont un véritable effet de levier sur les décisions concrètes dans les entreprises. C'est certainement un énorme challenge, et il le disait, c'est peut-être la nouvelle génération de philosophes qui va pouvoir porter ce challenge-là. Peut-être que Uber finira prof, hein.
Produisons des connaissances de combat, en tout cas. C'est tout ce qui
ou influencera les bonnes entreprises pour penser le monde de demain avec un E ou un A, comme vous voulez.
French Tech.
Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et normalement, votre regard sur la philosophie computationnelle est désormais un peu différent car les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons méritent notre attention à toutes et à tous. Concepteurs, commanditaires ou simples usagers, nous avons le droit et la responsabilité de nous renseigner, de nous challenger, de penser ces sujets pour être acteurs plus que spectateurs. Trench Tech, c'est fini pour aujourd'hui, mais retrouvez tous nos épisodes sur les plateformes de podcast préférées. Et comme l'a écrit André Comte-Sponville, la philosophie est une pratique discursive qui a la vie pour objet, la raison pour moyen et le bonheur pour but. Il s'agit de penser mieux pour vivre mieux.